Bonjour à tous. Tous les samedis sur Graphite, vous écoutez Biotine, l'émission de science entre 12h et 13h sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur la bande FM sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Je m'appelle Jean-Noël et je suis avec Carole. Bonjour.
Salut,
Carole.
Salut Jean-Noël.
On se retrouve ce samedi pour parler de l'actualité scientifique. On a tellement de choses à vous dire que finalement, les émissions passent très vite.
Exactement. Et il faudrait d'autres émissions, en fait. Émissions de 2 heures, peut-être.
Et ben, je vais en parler à la direction de Graphite et on verra bien si on va nous l'accorder. Nous sommes le 24 octobre et il y a parfois des journées internationales des Nations Unies pour nous permettre de nous sensibiliser à tel ou tel sujet. Et aujourd'hui, 24 octobre... Les Nations Unies se sont dit, eh bien, ça sera la journée des Nations Unies. Oui, parce qu'à un moment...
On est à un moment, il faut aussi faire sa journée.
Voilà, on est jamais assez bien servi que par soi-même. Donc, c'est aujourd'hui la journée des Nations Unies. Au niveau de l'éphéméride, d'un point de vue science et technique, il faut dire que le 24 octobre est quand même assez important et on a pas mal de sujets qui sont évoqués et qui ont donc été célébrés un 24 octobre. En 1851... William Lassell découvre Ariel et Ombriel, qui sont des satellites naturels d'Uranus. En 1902, en France, c'est la première utilisation des empreintes digitales pour l'arrestation d'un meurtrier. Ça date de 1902. Je ne pensais pas que c'était si vieux,
oui,
en fait.
Oui, c'est vrai que ça paraît il y a longtemps.
Et voilà, 1902. En 1931, ouverture du pont George Washington à New York. Ça te dit peut-être quelque chose.
Tout à fait.
En 1960, c'est la catastrophe de Nedelin, au cosmodrome de Baïkonour. C'est l'allumage prématuré des moteurs du second étage qui va provoquer l'explosion d'un prototype de la fusée R16. Cette explosion tua dans un premier temps 74 personnes, mais d'autres vont succomber à leurs blessures, au total 92 victimes. Parmi elles, le maréchal des forces stratégiques soviétiques, qui s'appelle Mitrofan Nedelin, d'où le nom qui a été pris pour cette catastrophe, la catastrophe de Nedelin en 1960. En 2003, plus proche de nous, c'est le dernier vol du Concorde. Donc il y a déjà aussi, ça fait 17 ans déjà. Ça passe très vite. Et en 2013, l'annonce de la découverte de la galaxie Z8 GND 5296, la galaxie la plus éloignée connue à ce jour, à une distance apparente de 13 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est vrai que c'est assez éloigné. Naissance le 24 octobre 1804 de William Weber, physicien allemand, lui doit une théorie originale de l'interaction électromagnétique. Il faut dire que quand même au 19e siècle, au niveau de l'électromagnétisme, l'électricité, il y a pas mal de découvertes. Et l'unité du flux magnétique s'appelle le Weber, donc on a donné son nom à William Weber, né un 24 octobre 1804. Le décès du 24 octobre 1944, à la prison de Fresnes, la mort de Louis Renault, inventeur, pilote de course et chef d'entreprise français, bien évidemment, fondateur de l'empire industriel Renault, ce qui en fait un pionnier de l'industrie automobile française. Avec son entreprise, il contribue intensivement à l'effort de guerre durant la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est accusé de collaboration économique avec l'occupant. Il est donc arrêté en septembre 1944. Il meurt donc en détention le 24 octobre 1944, sans que son procès puisse avoir lieu. Son entreprise est donc ensuite saisie, nationalisée par le gouvernement provisoire de la République française. Donc la mort de Louis Renault le 24 octobre 1944. On va parler de pas mal de choses.
Le programme va être dense aujourd'hui.
Oui, écoute, je te laisse la parole, Carole, comme tu es...
Je voulais...
Tu n'es pas tous les jours présente à cette émission, autant en profiter. Et puis moi, je vous emmènerai dans l'espace plus tard.
Alors moi, je voulais dans un premier temps faire un petit point sur les expositions. On le sait, hors période de masques et de restrictions des contacts sociaux, on serait tous allés à la rentrée faire plein d'expositions, découvrir tout ce qui est de nouveau accessible. Là, on le fait avec les gestes barrières. Et moi, je voulais parler de deux expositions là qui ont retenu mon attention. Une première qui a lieu donc en ce moment à la Cité des sciences et de l'industrie. Et d'ailleurs, donc ça a démarré le 18 septembre, et d'ailleurs c'est une exposition en fait qui va devenir une exposition permanente dans ce lieu, donc vous aurez tout le temps d'aller la découvrir, et qui s'appelle Bio-Inspiré. puisque, bah, comme on l'évoque souvent dans l'émission, hein, les organismes qui composent le monde du vivant ont développé d'ingénieux savoir-faire pour se protéger, s'adapter à leur environnement et résister aux changements. S'en inspirer pour imaginer des modèles de développement durable offre des solutions innovantes et originales aux problématiques environnementales actuelles. Donc, l'approche bio-inspirée, elle pose en fait un autre regard sur le vivant. Et cette nouvelle exposition permanente, qui est installée en partie dans la serre hein, de la Cité des sciences et de l'industrie, eh bien, elle s'attache à expliquer cette démarche scientifique respectueuse du vivant au travers d'un parcours où le visiteur découvre comment fonctionne le vivant et comment on peut s'en inspirer. À côté de 3 écosystèmes reconstitués pour l'exposition et riches de nombreuses espèces animales et végétales, eh bien, il y a des dispositifs interactifs, jeux, quiz, maquettes, histoires à écouter et films qui aident à comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le vivant et qui montrent les nombreux domaines d'application de la bio-inspiration. Donc voilà, je vous la conseille fortement si vous êtes de passage à Paris. Il y a une deuxième exposition, toujours à Paris, au sein de la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum d'Histoire Naturelle. Celle-là, elle est temporaire, mais il y a le temps, puisqu'elle a démarré le 16 septembre et ce sera jusqu'au 14 juin de l'année 2021, qui s'appelle « Pierres précieuses ». Alors en fait, rien que l'affiche de l'exposition, elle donne envie, elle nous plonge dans l'univers des pierres précieuses. C'est en fait une sélection exceptionnelle de minéraux. On parlait de la minéralogie lors de la dernière émission.
Oui.
Et bien voilà, une sélection exceptionnelle avec donc de minéraux, gemmes, objets d'art qui dialoguent avec des créations joaillières de Van Cleef & Arpels. À travers en fait une scénographie complètement contemporaine, hein, l'exposition elle met en regard plus de 500 minéraux, gemmes et objets d'art des collections du muséum et plus de 200 gemmes et créations joaillières de la maison Van Cleef & Arpels. Ce dialogue inédit entre minéral, gemmes et bijoux structure le parcours et plonge le visiteur dans l'histoire de la Terre, les processus de formation des minéraux et les dernières avancées scientifiques en géosciences. Ça doit être assez intéressant. On se demandait justement quelles pouvaient être les dernières recherches sur le sujet. Eh bien, il faut aller voir cette exposition-là.
Oui, j'étais en train de me demander le lien avec la Grande Galerie de l'Évolution, qui est un endroit magnifique, évidemment. Mais je me suis demandé pourquoi... Est-ce qu'il y avait un espace de minéralogie au Muséum d'Histoire Naturelle? Sûrement. Oui, c'est
peut-être
possible.
Bonne
c'est
question,
possible. Et c'est peut-être pour ça que du coup il y a une expo temporaire qui n'est pas faite dans la partie minéralogie parce que du coup peut-être ils n'avaient pas assez d'espace. Ils le mettent dans la grande galerie. J'étais en train de me dire, voilà, le lien avec la Grande Galerie d'Évolution, je ne le vois pas.
Il faudra qu'on aille voir. Peut-être qu'en effet, en termes de mise, de scénographie qui était souhaitée, c'était le lieu qui s'y prêtait.
Ah, mais c'est possible, c'est magnifique. De toute façon, aller visiter la Grande Galerie d'Évolution, qu'il y ait ou pas d'exposition temporaire, c'est déjà un lieu magnifique.
Et là, ça permet justement, avec le même billet d'entrée, on peut justement avoir accès à cette partie-là.
Combiné. Mais c'est peut-être possible qu'il y ait un espace minéralogie, parce qu'il y a différents bâtiments, en fait, au Muséum d'Histoire Naturelle, et, notamment le coin des dinosaures, tout ça. Mais minéralogie, ça ne dit rien en premier abord, mais c'est peut-être normal. Mais en tout cas, je ne doute pas que l'expo doit être superbe.
J'ai eu des très bons retours de gens qui sont déjà allés.
Et comme tu le disais, on l'évoquait la semaine dernière, parce que c'était dans l'éphéméride avec quelqu'un qui avait contribué justement à développer ce domaine de recherche de la minéralogie. On ne savait pas trop ce qui se faisait actuellement, et donc ça peut être totalement l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Je t'emmène dans l'espace, parce que on s'inquiète. On s'inquiète de savoir ce qui se passe à bord de la Station Spatiale Internationale parce que depuis plus d'un an, il y a une fuite d'air.
Mais il y a toujours des choses qui se passent dans l'ISS, c'est une enquête qui n'en finit pas.
Mais heureusement, et là il y a une fuite d'air qui inquiète les contrôleurs au sol. Et,
on peut les comprendre.
Mais malgré l'aide des astronautes qui sont à bord, ils ne sont toujours pas venus à localiser sa source, ça devient inquiétant. Cette fuite d'air, elle fait l'objet d'une enquête depuis plusieurs semaines. Alors, on nous dit que ça ne présente aucun danger immédiat pour l'équipage. Le taux de perte d'air n'étant pas suffisamment élevé pour inquiéter la NASA. Et donc, ça ne présente aucun danger pour la santé des astronautes à bord du complexe orbital. Tu m'étonnes.
Heureusement, parce que...
Thomas Pesquet, il y va bientôt, je crois. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est prévu qu'il retourne là-bas. 2021,
oui,
en
tout cas, c'est prévu.
Ouais. Donc... Bon, je sais pas, je serais pas rassuré à sa place, mais bon. Et en septembre, la vitesse de la fuite d'air a augmenté de plus de 2,5 fois. On en est jusqu'à une perte de 1 kg d'air par 24 heures. Ce qui est pas anodin, en fait.
Ça paraît quand même beaucoup.
C'est une situation totalement inédite, donc depuis plus d'un an. qui contraint les responsables au sol de la NASA et de Roscosmos, hein, l'agence spatiale russe. Ils ont confiné une nouvelle fois l'équipage dans le module russe pour rechercher l'endroit d'où venait la fuite. C'est-à-dire que même là-bas, ils sont confinés. En fait, il n'y a pas que sur Terre. Comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne. Et ça a été le cas également déjà au mois d'août. L'idée, c'est que les sas de passage entre tous les modules du complexe orbital ont été fermés. Et comme ça, les contrôleurs de mission, ils peuvent à nouveau essayer de surveiller la pression atmosphérique dans chaque module. Et donc, il y a quelques jours, la NASA a réveillé l'équipage en pleine nuit pour localiser précisément la fuite d'air. Et donc, depuis le sol, l'analyse des données des modules testés pendant la nuit a isolé l'emplacement de la fuite dans la zone de travail principale du module de service de ce module russe Zvezda. Oui, il y a plein de Z dedans. Il y a des Z et des V, donc ça va être Zvezda. Et comme explique la NASA, l'équipage a donc fermé une par une les écoutilles entre les sections arrière et avant de ce module russe et également les passages de ce module vers les autres modules. Et tout ça en utilisant un détecteur de fuite à ultrasons. Et donc, tout au long de la nuit, il y a eu des mesures de pression qui ont été prises pour tenter d'isoler la source de cette déperdition. Eh bien, peine perdue, la taille de la fuite identifiée pendant la nuit a depuis été attribuée à un changement temporaire de température au bord de la station. Et donc, du coup, le taux global de fuite est resté inchangé. On n'a rien trouvé. Des études sont donc encore en cours pour essayer de localiser précisément la source de la fuite. Cette difficulté, en fait, à trouver une fuite d'air aussi minime, elle pourrait s'expliquer par le vieillissement de la Station spatiale internationale, un défaut d'étanchéité qui se serait formé au fil des ans. Il faut dire que ce fameux module russe est déjà assez vieux et le premier module de l'ISS a été lancé il y a 22 ans. C'était en novembre 1998. Nous étions au 20e siècle quand on avait lancé le premier module. Donc tu m'étonnes peut-être au bout d'un moment.
Et puis surtout qu'on s'est quand même mis à rude épreuve dans ces conditions quand même très particulières, même si c'est fait pour. Donc on imagine... On imagine que oui, ça s'use comme toute chose.
Mais évidemment, il faudrait un contrôle technique en fait, de la Station spatiale internationale. Mais en tout cas, il y a une fuite d'air et on ne sait pas d'où ça vient. En tout cas, on espère
qu'on aura la réponse dans une prochaine émission.
Mais tu as raison, il se passe tellement de belles choses dans cette Station spatiale internationale. On se rappelle de ce trou qui avait
été délibérément fait.
Par contre, là, on savait la fuite. Enfin, on savait le trou, il n'y avait pas eu de fuite. C'était un trou dans la carlingue qui a été fait de façon intentionnelle. Il y avait une équipe qui avait lancé une enquête. Enfin bref, c'était assez
intéressant. Il y avait eu plusieurs épisodes. Ça avait été quelque chose de long aussi, en fait. Ça n'avait pas pu se régler comme ça.
On ne sait pas trop la fin de l'histoire. Ce qui était intéressant, c'était aussi ce côté un peu géopolitique.
Oui.
Parce qu'il y avait à bord américains, russes, allemands, je crois. Enfin voilà. Et donc, c'était la partie de Cluedo géant au sein de la Station spatiale internationale. C'est toujours fascinant.
Je vous ramène sur Terre, exactement, les pieds bien dans la terre, puisque on va parler de la cueillette des champignons. On est à la bonne période, là, en automne. J'imagine que peut-être certains d'entre vous ont déjà tenté l'expérience, hein, trouver avec fierté des champignons à ramener pour faire un dîner fort sympathique. Mais on sait qu'il faut faire attention quand on cueille les champignons, puisque certains peuvent être toxique. Et ce qui se passe, et ça a fait l'objet notamment d'un article dans Le Monde, c'est que l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, dont on a aussi beaucoup entendu parler ces derniers mois, eh bien, elle met en garde contre de nombreuses intoxications. Pourquoi ? Vous allez le voir, je garde le suspense, je ne dis pas pourquoi, mais peut-être une recrudescence des intoxications suite à l'ingestion donc, de champignons toxiques. Alors, cette mise en garde, elle est à destination là, de tous les mycophiles qui nous écoutent, puisque l'automne marque donc le début de la cueillette. Et cette question que tout le monde va se poser, est-ce que je viens de cueillir quelque chose de comestible. Justement, l'ANSES rappelle bien qu'un champignon peut être dangereux. Les intoxications peuvent entraîner des troubles digestifs sévères, des complications rénales, des atteintes au foie, et ça peut même aller jusqu'à la mort. Donc, ils insistent vraiment sur ce point. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au deuxième semestre 2019, plus de 2000 cas d'intoxication liés à la consommation d'une espèce toxique ou de champignons comestibles mal cuits ou en mauvais état ont été rapportés au centre antipoison, dont quand même 3 cas mortels. Et dans les cas pas mortels, on imagine que c'est un passage assez désagréable. Donc, pour éviter que les accidents se reproduisent partout à l'automne, eh bien, l'ANSES rappelle régulièrement les bonnes pratiques à respecter. Ramasser uniquement les champignons que vous connaissez parfaitement et au moindre doute, faire contrôler votre cueillette par un pharmacien. Oui, alors je le redis, ayant des membres pharmaciens dans ma famille qui ont justement suivi des cours de mycologie et qui sont quand même relativement au fait des différents types de champignons. Ou sinon, il y a aussi des associations de mycologie. Également, je le rappelle, il ne faut jamais manger de champignons sauvages crus et ne pas en donner aux jeunes enfants. Ça paraît logique, mais c'est bien de le rappeler. Et pourquoi est-ce que donc on a eu potentiellement une recrudescence d'intoxication ? Quel nouveau phénomène a fait son apparition ? Nous qui parlons souvent de technologie, ce sont les applications sur smartphone destinées à identifier l'espèce de champignon grâce à une photo. Alors, c'est un phénomène qui est pour l'instant trop récent pour en connaître l'ampleur précise, mais on sait qu'il existe au moins quelques cas, au pluriel, parmi les intoxications rapportées l'an dernier, où la confusion entre espèces était favorisée par l'utilisation d'applications de reconnaissance de champignons sur smartphone qui avaient donné des identifications erronées sur les champignons cueillis. Donc l'ANSES, elle recommande clairement de ne pas consommer de champignons identifiés par ces applications en raison du risque élevé d'erreur. Et pour mieux appréhender l'ampleur du problème, eh bien une recherche a été lancée au centre antipoison de Paris après justement l'intoxication sévère d'une famille de 3 personnes l'an dernier. Alors c'est vrai que quand on y pense, moi je me dis, est-ce que si je téléchargeais ça, je prendrais quand même pour argent comptant ce qui est sur l'application. Enfin, il y a des gens qui du coup le font. Et ça peut être assez dangereux, puisqu'apparemment, c'est ce qu'on va voir après, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, c'est une bonne idée sur le principe.
Oui, mais... c'est une bonne idée sur le principe, et on peut comprendre que des gens pensent que c'est fiable.
Sauf que, justement, bah oui, sauf que pas du tout. Puis faut... enfin, je pense qu'il faut garder en tête que là, c'est des applications, entre guillemets, un petit peu ludiques, etc. Enfin, je pense jusque-là, faut du coup pas non plus... Enfin, faut être critique, en fait, par rapport à ce qu'on nous donne comme information. Et alors, c'est pour raconter la suite de l'histoire de cette famille de 3 personnes. Le père, donc, raconte... la personne, le docteur du SAMU raconte « J'étais à la régulation téléphonique ce jour-là. Cette famille avait ingéré un plat de champignons. Le père avait utilisé une application pour se rassurer et se dire « Ah oui, c'est bien comestible. » Quel résultat ? 3 hépatites sévères, le placement de l'enfant en réanimation et une greffe de foie pour le père. » Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même sur le nombre de cas d'intoxication, il n'y en a que 3 qui sont réellement mortels, pour tous les autres cas, ça peut quand même mettre des soins extrêmement lourds et des situations, enfin une greffe de foie, juste pour avoir mangé un plat de champignons, c'est quand même un petit peu dommage. Alors pour réaliser l'étude lancée par le centre antipoison, les photos de champignons envoyées chaque jour par des particuliers inquiets d'avoir été intoxiqués ont été passées dans 2 des applications de reconnaissance des champignons donc, qui existent à l'heure actuelle. Le travail est toujours en cours, mais on a quand même plus qu'une tendance, explique le docteur Langrand. Elle se trompe à plus de 50% sur l'espèce. Voilà, c'est pour ça que je disais, voilà, en termes de... de validité, c'est quand même assez bas. Alors, le médecin insiste, parfois c'est bénin, mais dans certains cas, elle crée des situations à risque d'intoxication. Donc, même si les applis signalent le risque mortel de certaines espèces, pour le docteur, ce n'est pas suffisant. Il faut dire aux gens qu'il faut s'abstenir de manger tout champignon sur avis d'une application. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Par contre... avoir le réflexe de prendre une photo des champignons que l'on compte manger, c'est utile. Parce qu'en cas d'intoxication, en fait, les médecins sont ainsi capables d'identifier très rapidement l'espèce responsable pour décider du traitement adéquat. Donc ça peut quand même être bien de prendre une photo, mais pas d'utiliser les applications. L'agence rappelle également qu'il faut cuire suffisamment les champignons sauvages. Il faut cuire uniquement les spécimens en bon état et en totalité, le pied et le chapeau, pour permettre l'identification. Il ne faut pas non plus consommer de champignons achetés à la sauvette, vendus par des non-professionnels, qui ne sont bien sûr pas nécessairement capables de les identifier. Ça paraît logique. Donc attention, on pourrait penser que maintenant on a une technologie supplémentaire qui nous permette, on va dire, de faire l'impasse sur peut-être quelques cours de base de mycologie. On se rappelle de ces petits livres, on pouvait voir les photos des champignons, etc. On peut le trouver également sur Internet. Il faut faire quand même très attention.
Oh, moi, j'ai jamais cueilli de champignons, j'en ferai jamais, je n'y connais rien. Mais
c'est dommage pour les cèpes, par exemple, c'est quand même très reconnaissable.
Oui, mais des cèpes, d'accord. Mais je me souviens, justement, tu parles de ces petits livrets. À un moment, on nous montrait deux champignons presque identiques. Et on te disait, l'un est comestible, l'autre est mortel.
L'autre est mortel, oui.
Et se ressemblait presque. Alors, peut-être parce qu'il y avait un petit détail, je ne sais plus ce que c'était. Imagine l'application. Enfin, je veux dire, les photos qu'on voit dans ces bouquins, c'est toujours des belles photos. Le champignon, il est tout seul, on ne voit rien. Là, tu vas prendre les champignons dans ta forêt, avec plein de mousse partout, des feuilles tombées, tout ça. Tu ne les vois pas si bien que ça. Donc, ce petit détail, cette petite différence qui fait qu'il est soit comestible, soit mortel, je ne pense pas que tu puisses la voir, en fait. Donc, évidemment, l'application n'est pas capable de repérer ça.
Après,
ça me paraît du bon sens.
Je pense que, je ne sais pas comment elles sont construites, mais on imagine qu'elles sont quand même basées sur tout un catalogue de données, de photos, etc. Je pense que ça sera certainement plus fiable plus tard. C'est juste que c'est juste le début du développement. Et c'est là où justement il faut être critique et se dire, bah, c'est trop récent, ça peut être un outil, mais clairement il vaut mieux se baser sur ses connaissances. Surtout sur un sujet à risque comme celui-là.
Oui, un sujet à risque, tout à fait.
Donc aller dans les pharmacies, aller auprès des associations qui sont spécialisées, ou sinon en tout cas rester dans votre zone de connaissance, c'est-à-dire les champignons que vous connaissez, qui sont comestibles et qui sont les plus courants en fait.
Oui, mais tu sais bien ce que c'est. On veut
briller en société avec.
On a marre de manger des cèpes. Bon,
c'est... Oh ben moi, ça me va très bien.
Eh bien, bon appétit si vous êtes à table finalement. C'est vrai qu'une petite omelette aux cèpes, ça, comme ça, là, d'un seul coup.
Ça donne envie. Hein,
ouais. Ça donne envie, effectivement. J'aime bien parce que tu as toujours des petits sujets, je dirais pas légers, parce que là on parle quand même de greffe de foie, mais moi je vais plomber l'ambiance.
Très bien.
Et je vais essayer de poser cette question, est-ce qu'on doit craindre une nouvelle pandémie mondiale ? Et c'est très sérieux. Pour la seconde
déjà,
fois...
Déjà, ce que j'allais dire, est-ce qu'on peut déjà pas terminer celle qu'on est en train de vivre ?
Jamais. Nous vivons une société où on se lasse tellement de tout, on est lassé du coronavirus, on veut un nouveau virus, et bien pour la seconde fois, il y a un nouveau virus de la famille de la variole qui vient de frapper une résidence de Fairbanks. Nous sommes en Alaska. Elle a contracté au mois d'août une infection avec un virus qu'on nomme le virus variole de l'Alaska. Une petite lésion grise est apparue sur la partie supérieure gauche de son bras, suivie d'un érythème 4 jours plus tard. La patiente a également signalé une adénopathie, des douleurs à l'épaule, de la fatigue, une fièvre nocturne. Bref, les médecins ont réalisé une biopsie de la liaison dans un laboratoire et confirmé un test positif à un virus qui s'appelle l'orthopox virus, identifié pour la première fois en 2015 chez une autre résidente de Fairbanks en Alaska. En fait, les orthopox virus font partie d'une famille de virus à ADN double brin. Ils affectent un grand nombre de vertébrés, dont l'être humain. Ils sont responsables de lésions cutanées bénignes, mais aussi de maladies mortelles comme la variole. Et donc l'orthopox virus identifié ici est du même type que le virus de la variole, mais semble-t-il apparemment beaucoup plus inoffensif. La douleur à l'épaule a persisté durant 2 semaines environ, tandis que la lésion cutanée a guéri en 6 semaines. Dans le cas précédent de 2015, elle avait cependant quand même persisté plus de 6 mois, ce qui est quand même pas anodin. Et donc cette variole de l'Alaska, qui est donc le nouveau nom de cette nouvelle pandémie que je vous propose, eh bien cette variole de l'Alaska serait apparemment transmise par de petits mammifères. Oui, parce qu'il faut toujours des petits animaux dans l'histoire, sinon ça n'est pas drôle. La patiente possède 2 chats, potentiellement en contact avec des petits animaux sauvages, et elle fréquente, nous dit-on, en tout cas ce qu'explique le rapport d'enquête, plusieurs chiens d'autres membres de sa famille. Elle n'a pas de chance,
Il y a des animaux domestiques tout autour.
Elle précise toutefois, cette étude, que la personne n'a pas été en contact avec un quelconque animal sauvage. C'est uniquement des petits chats, des petits chiens tout mignons domestiques. Dans le précédent cas de 2015, la patiente vivait avec 12 petits mammifères dans sa propriété et tous ces mammifères avaient été testés négatifs. Ça, c'est aussi une information intéressante dans le premier cas. Le mode de transmission à l'homme demeure donc un peu flou. Étant donné la proximité géographique des 2 cas, nous sommes dans la même ville en plus, il est probable que le virus provienne d'un animal vivant en Alaska, c'est ce qu'annonce les experts. Alors, les autorités, elles se veulent toutefois différentes, parce qu'elles sont comme toi, Carole. Elles se disent, on a déjà le coronavirus à gérer, on va prendre le temps pour gérer la variole de l'Alaska. Déjà, les deux cas se sont produits à 5 ans d'intervalle. Il est donc probable que l'infection de l'homme à homme soit plus qu'occasionnelle. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler, c'est ce qu'indiquent les experts, qui appellent tout de même à la vigilance auprès des habitants de la ville de Fairbanks. Tu m'étonnes, tu habites Fairbanks, t'es quand même pas trop rassuré. Il est même recommandé de ne pas toucher les animaux quand tu habites Fairbanks. Et alors ceux qu'on ont, je te raconte pas en fait, ils doivent flipper hein, ton petit matou.
Mais c'est surtout que quand on habite en Alaska, alors je dis pas qu'on va toucher les animaux sauvages tous les jours, mais je pense qu'on est quand même beaucoup plus au contact des animaux que chez nous.
Alors ils appellent également à éviter tout contact avec des déjections. Alors dans la mesure du possible, en général,
on évite.
Mais là, on lui dit, faites attention quand même. Et puis, bien sûr, se laver régulièrement les mains. J'ai l'impression que c'est la phrase que j'ai le plus entendue, moi, personnellement, en 2020.
Oui.
Et donc, l'année dernière, l'Institut de recherche biomédicale des armées du Val-de-Grâce mettait pourtant en évidence deux types de risques liés à ces fameux orthopoxvirus. Une potentielle réémergence de la variole et l'émergence d'autres virus du même type qui seraient facilités par l'absence d'immunité croisée depuis l'arrêt de la vaccination antivariolique, évidemment. Ça peut avoir un lien également, parce qu'on est de moins en moins vaccinés, de moins en moins protégés. On s'est dit, il n'y a pas de virus de la variole. Pas la peine de nous vacciner. Et donc, du coup, l'immunité baisse. Donc, attention. Donc, voilà. En fait, on fait tout pour te faire paniquer. Trois nouveaux types d'orthopoxvirus ont été découverts au cours des 10 dernières années. Et du coup, voilà, c'est un deuxième cas mondial de ce nouveau virus détecté aux États-Unis, précisément en Alaska, précisément à Fairbanks. N'allez pas trop en vacances à Fairbanks.
Oui, peut-être, on attend un petit peu.
On attend
Une
pandémie après l'autre. Alors là, on n'est pas du tout dans le cas de la pandémie. On est sur deux cas distincts à 5 ans d'intervalle.
Oui. Mais pas de quoi paniquer pour l'instant, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant.
Mais il faut être vigilant et surtout, ça pose question, en fait. Mmh. Et voilà. Et donc, du coup, peut-être qu'on aura cette fois-ci un virus américain. Et comme ça, il y aura une balle au centre. T'as le virus chinois et puis t'as le virus américain.
Mais c'est génial.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On écoute un petit titre, tiens. Pourquoi
pas? Oui, histoire de se remettre en joie, peut-être.
Je sais. Non, mais depuis le mois de septembre, je n'arrête pas d'être là avec des informations assez anxiogènes. Je suis désolé, mais c'est l'actualité. Dis-nous de quoi tu vas nous parler après.
On va en parler ensemble. On va parler de l'espace. On va revenir justement un petit peu la tête dans les étoiles.
T'as tellement raison parce qu'il se passe tellement de choses sur Terre qu'on est peut-être mieux là-bas dans l'espace. Allez savoir. On écoute Séoul et on se retrouve juste après.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Sofiane Pamart avec le titre Séoul. C'était doux.
C'était agréable. On ne s'attendait pas en fait à ce que ça se finisse.
Oui,
on était bien.
Ça m'a un peu trahi parce que c'est vrai, on était. Voilà. Ça faisait du bien. Oui. Et on va repartir dans l'espace.
Justement, restons un petit peu sur cette impression-là de flottement. Allons un petit peu voyager. Puisqu'il n'y a pas longtemps, donc c'était notamment relayé par Science Post en octobre, on a parlé en fait d'astronomes qui seraient en train d'identifier des planètes potentiellement super habitables. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Pour nous, terriens, notre monde, c'est le meilleur endroit pour vivre. Mais des chercheurs américains estiment que certaines planètes seraient plus propices au développement et au maintien de la vie que la Terre. Pourtant, la Terre, c'est la seule planète connue pour abriter la vie. Et a fortiori, elle est considérée comme le terrain le plus propice à l'émergence et au développement du vivant. Mais est-ce que c'est réellement le cas ? Pourrait-il y avoir dans l'univers d'autres mondes où il ferait mieux vivre ? Donc c'est l'astronome Dirk Schulze-Makusch de la Washington State University qui pense que oui, c'est effectivement le cas et il détaille ses travaux dans la revue Astrobiology. Dans les années et décennies à venir, on sait que des observatoires de plus en plus puissants nous permettront de sonder l'univers comme jamais auparavant. On pense notamment au James Webb Télescope, donc de la NASA, dont le lancement est prévu l'année prochaine, ou encore à Plato, développé par l'Agence spatiale européenne, prévu pour être lancé en 2026. On imagine qu'il y en aura d'autres. Et par exemple, on peut citer LUVOIR. C'est l'une des 4 propositions d'observatoires spatiaux que la NASA envisage de développer au cours de la décennie 2025-2035. Bon, ça nous promet beaucoup de belles découvertes. Mais donc, ceci dit, l'astronome Dirk Schulze-Makusch estime qu'avec tous ces instruments à venir, il sera important de prioriser certaines cibles. Nous devrons concentrer nos efforts sur les planètes ayant les conditions les plus prometteuses pour une vie complexe. Cependant, nous devons faire attention à ne pas rester coincés sur notre recherche d'une deuxième Terre, car il pourrait y avoir des mondes plus propices à la vie que le nôtre, c'est ce qu'il explique. Pour son étude, il s'est entouré donc de René Heller de l'Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire et d'Edward Guinan de l'Université Villanova. Ensemble, ils ont cherché à identifier les critères de superhabilité que devraient présenter ces planètes. Ils ont ensuite recherché lesquels pourraient y répondre parmi les 4500 mondes connus au-delà de notre système solaire. Alors c'est là qu'on pense à plein de films de science-fiction, etc. Ils ont donc sélectionné des planètes supposées de type terrestre en orbite dans la zone de leur étoile, autorisant la présence d'eau liquide en surface. Concernant les étoiles, les chercheurs ont évidemment pris en compte les étoiles de type G, comme notre Soleil. En revanche, ils soulignent que ce dernier n'a une durée de vie que d'environ 10 milliards d'années. Ça paraît beaucoup, mais là, en effet, pour ce type de recherche, ce n'est pas forcément suffisant, puisque c'est ce qu'ils disent, la vie complexe ne s'est pleinement développée sur Terre qu'il y a moins 4 milliards d'années. Donc, ils considèrent que de nombreuses étoiles similaires à notre Soleil pourraient manquer de carburant avant que la vie complexe ne puisse se développer sur leur planète. Donc, c'est pourquoi, en plus d'examiner les systèmes avec des étoiles G, ils ont considéré les systèmes avec des étoiles naines K. Ce sont les naines oranges. Elles sont un peu plus froides, moins massives et moins lumineuses que notre Soleil, mais elles ont en revanche une longue durée de vie de 20 à 70 milliards d'années. Donc c'est assez vertigineux. Elles pourraient ainsi permettre la vie, si tant est qu'elle apparaisse sur une planète, d'avoir davantage de temps pour se développer. Mais pour être habitables, ces mondes ne doivent pas non plus être trop vieux, au risque d'épuiser leur chaleur géothermique et de manquer de champs géomagnétiques protecteurs. Aussi, pour maximiser les chances d'habitabilité, les chercheurs estiment que nous devrions concentrer nos efforts sur les planètes âgées entre 4,5 milliards d'années, comme la Terre, et 8 milliards d'années. La taille et la masse de ces planètes comptent également. Dans cet esprit, les astronomes proposent de se concentrer sur les mondes un peu plus grands que la Terre, environ 10%, de manière à maximiser la superficie des terres habitables. Les planètes environ 1,5 fois plus massives pourraient également préserver leur chaleur interne plus longtemps et auraient également une gravité plus forte. Cela leur permettrait de retenir une atmosphère sur une plus longue période. Pour terminer, les auteurs soulignent que la chaleur et l'humidité font également bon ménage. On observe en effet sur Terre une biodiversité plus importante dans les forêts tropicales humides que dans les zones plus froides et plus sèches. Donc les chercheurs proposent de nous concentrer sur des mondes présentant une température de surface environ 5 degrés Celsius, supérieure à la température moyenne de la Terre, avec un taux d'humidité supérieur. Donc, ils ont, ces chercheurs, réduit l'échantillon de plus de 4500 exoplanètes à 24 prétendantes, tout évoluant à plus de 100 années-lumière. Oui, donc elles sont un petit peu loin, on n'ira pas comme ça. Il est donc inutile d'imaginer pouvoir nous y rendre un jour, déménager là-bas, si jamais la Terre devenait inhabitable. Pour l'instant, il faut noter qu'aucune de ces planètes ne répond à tous les critères. En revanche, ce sont celles qui s'en rapprochent le plus. Donc sur cet échantillon, 16 ont entre 5 et 8 milliards d'années environ, par exemple, et 5 auraient des températures de surface adéquates. L'une d'entre elles, qui a été baptisée KOI 5715.01, se détache toutefois des autres en cochant 4 caractéristiques indispensables, la rendant plus propice à la vie que notre planète, la planète Terre. Donc, affaire à suivre avec tous ces nouveaux télescopes qui vont être, toutes ces stations d'observation, ces observatoires qui vont être lancés, on va en savoir de plus en plus sur ce type de planète.
Ce qui me permet de saluer à nouveau cette semaine PJ qui m'avait envoyé cet article pour pouvoir l'évoquer dans l'émission Biotine.
On était donc connectés.
Mais oui, parce que du coup, et toi, tu l'avais également, tu avais également prévu cet article à évoquer dans cette émission.
Tout à fait.
Parce qu'effectivement, oui, ça peut être intéressant d'aller polluer d'autres planètes. Finalement, on n'a plus assez de place ici.
C'est bien ça qui est... Alors, ça reste, je trouve, extrêmement excitant de se dire qu'un jour, on va découvrir qu'il y a de la vie, au sens une vie complexe développée sur une autre planète. Mais là, c'est bien précisé. En tout cas, avec les moyens technologiques actuels, et même si on essaye d'extrapoler, on ne pourra pas s'y rendre. Donc, à moins qu'eux puissent venir nous rejoindre, on ne devrait pas réussir à aller les polluer.
Mais
pas tout de suite.
Ils sont peut-être déjà parmi nous, Carole.
Qui sait ?
Écoute, on va rester dans l'espace et on va aller plus précisément sur la Lune. On savait, il y a déjà 50 ans, que le niveau de radiation serait sans doute un problème pour des colons lunaires et qu'ils devraient peut-être s'enterrer en partie, alors pas s'enterrer sous la Terre, parce que ça ne se dit pas, mais s'enterrer sans luner, d'ailleurs je ne sais pas.
S'enterrer sur la Lune, creuser des grottes donc, des galeries.
Oui, parce que est-ce qu'il y a de la Terre sur la Lune ? Ça va être bizarre, il y a de la Terre sur la Terre, mais est-ce que la Terre, la Lune,
C'est plutôt de la roche.
On va parler de régolithes lunaires. Alors d'accord. Ça fait moins rêver, régolithes lunaires, mais on voit bien l'idée de se mettre sous le sol lunaire pour pouvoir se protéger. C'est ce qu'on savait il y a 50 ans. À l'heure où SpaceX prépare à aller sur Mars, la NASA qui se prépare à retourner sur la Lune avec le programme Artemis, eh bien, on est quand même un peu surpris d'apprendre que même les instruments déposés sur la Lune par les astronautes de la mission Apollo ou même par les rovers russes à l'époque, eh bien, ces instruments n'avaient pas prévu d'estimer le taux de radiation à la surface de notre satellite. On n'a jamais pensé.
Bah oui, parce que
mais on ne pense pas à tout.
Ben non, c'est ça. Et puis au départ, ce n'était pas une problématique, je pense, justement.
Et une publication dans le célèbre journal Science Advances vient cependant de nous apprendre récemment que la mesure avait finalement été faite par une équipe internationale qui regroupe des chercheurs chinois et allemands. Je trouve le duo assez intéressant. A été rendue possible grâce à un instrument spécifique qu'on va appeler LND et qui équipe la sonde lunaire chinoise Change4. On avait déjà parlé de cette sonde chinoise. En fait, les astronautes des missions Apollo avaient bien de quoi mesurer leur taux total d'exposition aux radiations pendant leur voyage aller-retour entre la Lune et la Terre, mais ça ne peut pas donner une estimation précise de ce taux sur une année entière. Donc c'est pour ça que finalement, on ne pouvait pas avoir de mesure. Mais c'est précisément ce qu'a permis de faire ce fameux instrument LND. Toutefois, la prise de données ne s'est pas faite en continu, mais seulement pendant le jour lunaire sur la face cachée de la Lune. On se souvient que les Chinois sont les premiers à aller voir la face cachée de la Lune. Et donc, du coup, Ils ont pu, récupérer quelques données parce que le reste du temps, dans l'obscurité et dans le froid de cette nuit lunaire qui dure environ 2 semaines, eh bien, la sonde économisait ses batteries. Et c'est peut-être pas plus mal, il faut qu'elle se repose, cette petite. Au cours donc d'une année, cet instrument LND a tout de même pu mesurer les variations du taux de radiation causée par les éruptions solaires et les fluctuations des rayons cosmiques interstellaires, ce qui n'est pas rien, et la Lune ne possède pas de bouclier magnétique, hormis un faible champ résiduel gardé en mémoire et fossilisé depuis la fin de la dynamo lunaire. Bref, les mesures obtenues donnent aussi des indications sur ce que pourraient subir des colons, des missions habitées dans le système solaire. Au final, donc, les chercheurs annoncent que ce taux de radiation est de 200 fois le niveau de rayonnement auquel sont exposées en moyenne des personnes sur la surface de la Terre. Donc c'est 200 fois plus important sur la Lune. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas négligeable. Mais en fait, on se dit que c'est seulement d'un ordre de 5 à 10 fois supérieur à ce que les passagers d'un vol intercontinental entre l'Europe et les États-Unis subissent pendant le vol. Donc c'est peut-être pas si énorme que ça.
Oui.
Une longue exposition ferait bien sûr augmenter les risques de cancer significativement, mais on pense maintenant savoir que les colons lunaires pourraient faire diminuer ce risque de façon assez substantielle en s'enterrant justement sous seulement 50 cm de ce fameux régolithe lunaire. Donc, il pourrait ainsi rester 6 mois sur la Lune sans dépasser la limite d'exposition fixée par la NASA pour les astronautes dans l'espace. En cas d'orage solaire, parce que ça arrive, un orage solaire, eh bien, les réseaux de satellites qui surveillent le Soleil pourraient prévenir les colons et ils auraient ainsi 30 minutes pour pouvoir essayer de se protéger.
Si ça, laisse pas beaucoup de temps quand même. Mais...
On a 30 minutes pour... Oui, mais tout va être prévu. C'est-à-dire comme si tu te mettais dans un tunnel ou dans une cave.
D'accord.
30 minutes, c'est jouable. C'est jouable. Moi, je pense que c'est jouable. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que, premièrement, on n'avait jamais vraiment évalué de façon précise le taux de radiation à la surface de la Lune. Et pourtant, on était allé sur place. Et que deuxièmement, les résultats qu'on a sont plutôt rassurants pour des futurs habitants lunaires. Je rappelle que c'est l'une des missions que nous pourrons suivre ces prochaines années.
Et on verra. Ça va être très intéressant. On aura plein de choses aussi à relayer comme information.
On vit une décennie formidable et elle a très bien démarré, je trouve. Mais d'un point de vue scientifique au sens large, ça va être une décennie extraordinaire. Donc là,
oui.
On a depuis plusieurs années sur cette antenne évoqué le fait qu'on irait habiter sur la Lune, mais on ne s'était jamais demandé si on pouvait supporter les radiations. Les premiers éléments semblent nous indiquer que oui, ça serait possible.
Ouais, très bien. Bah, écoute, je vais peut-être mettre ma candidature, parce que c'est vrai que j'hésitais. Donc
Je t'ai dit, Carole, nous demandons à la direction de Graphite de nous payer le voyage et on fait une émission en direct
oui, bien
de
sûr.
La Lune. Il n'y a aucun problème.
Bah, ce serait super. Bah, très bien.
Il y a juste le voyage à faire que personnellement, je vais avoir un peu de difficulté.
Oui,
là, tu vois, c'est pas l'autre route.
C'est ce que j'allais dire au niveau des cachets pour le mal des transports. Je pense que tu peux prendre une certaine dose.
Ça risque d'être... Ouais.
Anesthésiez-moi pour le trajet, tu sais. c'est ce qui se passe déjà dans certains pareils films de science-fiction où ils sont cryogénisés pour les trajets parce que c'est des trajets qui durent sur des...
Bon, oui,
la Lune, on sait que c'est pas très très loin. Mais
Ça va, tu poses juste une semaine ton boulot, tu poses des vacances. tu dis,
je reviens, je vais sur la Lune.
Et oui, et comme ça, tous tes collègues sont bluffés.
Mm-hmm.
C'est tout.
Je pense que tu reviens fatigué, mais bon.
Tu reviens fatigué, mais bronzé grâce aux orages solaires.
Oui, aux oui, bronzé avec des irradiations cancérigènes, c'est génial.
Mais t'as des combinaisons.
Mais bien sûr, mais tout sera prévu, c'est comme tu le disais, tout sera prévu.
Tout sera prévu, et puis tu reviendras palote en fait, parce que t'auras tellement été protégé et resté sous le sol lunaire.
Il faudra faire des UV au retour, c'est quand même scandaleux.
C'est quand même malheureux d'en arriver à ce point-là. Ça revient cher, en fait.
Oui. Non, je ne suis pas sûre que ce soit pour ça qu'il faut que Graphite nous sponsorise.
Oui, à mon avis, oui. Donc voilà, mais je trouvais intéressant cette information parce que finalement, on n'avait pas encore évoqué ce sujet-là, et ni nous, ni personne. Je veux dire, même Armstrong avait oublié. J'adore cette phrase.
Oui, très bien. Parfait pour clôturer ce sujet. Est-ce que j'ai encore du temps ou pas?
Oh, mais
je ne vois rien avec ces écrans de plexiglas.
Tu as un quart d'heure.
Oh là là, parfait. Ben, je vais prendre mon temps.
Mince, tu as 2 minutes.
Non, mais c'est...
Et vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite.
Oui.
Non, mais pour bien expliquer aux auditeurs qui prennent l'émission en cours, ils se
où
disent...
Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on écoute?
Mais pourquoi ils veulent aller sur la Lune? Parce que nous sommes dans une émission scientifique comme tous les samedis sur l'antenne de Graphite.
Tout à fait. Et moi, j'aime bien à chaque fois changer complètement de sujet, hein, revenir sur vraiment quelque chose de, j'allais dire, de très terre à terre.
Oui, je te
sens. Et ça fait longtemps... Oui,
que tu n'as pas parlé
des animaux.
Oui, parce que les animaux sont nos amis.
Exactement. Donc c'est mon moment, 30 millions d'amis.
Mais oui, parce que c'est la troisième samedi que tu reviens depuis le début de cette saison de septembre.
Et je n'en ai pas encore parlé.
Oui, et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et là, j'attendais absolument, je frémissais d'impatience, trépignais.
Enfin, les animaux.
Et voilà, on va parler justement du chien. C'est pour ça que je dis en plus 30 millions d'amis, parce que je les soutiens. Une pensée émue. Il y a régulièrement des nouvelles études sur le comportement du chien. On apprend pas mal de choses. Et cette fois-ci, en fait, on a essayé de regarder comment est-ce qu'il considérait le visage, alors le visage d'un congénère, donc d'un autre chien, puisque c'est un signal qui est particulier, on le sait, hein, dans la communication humaine, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la reconnaissance des visages, et aussi chez d'autres primates d'ailleurs. Et cette fois-ci, c'est une étude qui est menée par une équipe de chercheurs hongrois et qui révèle que voir la face d'un congénère, ce n'est pas le plus important dans la communication visuelle des chiens. Alors, beaucoup de chercheurs à l'heure actuelle réalisent des expériences en plaçant des chiens dans une machine à IRMF. Donc, c'est de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ça doit être sympa à mettre en place, mais en tout cas, maintenant, c'est quelque chose de connu. Et cette technique d'imagerie, elle nous permet d'en apprendre beaucoup sur nos fidèles compagnons. Par exemple, on sait grâce à cette technique que les chiens peuvent détecter les rayonnements thermiques. Dans une nouvelle étude publiée donc début octobre dans la revue The Journal of Neuroscience, des chercheurs expliquent avoir fait passer des IRMF à 30 personnes et à 20 chiens. Les sujets devaient en même temps regarder de courtes vidéos d'autres humains et d'autres canidés de face ou alors tourner de sorte que seule l'arrière de la tête ne soit visible. C'est connu, hein, les visages sont au cœur de la communication visuelle chez les humains. Un réseau neuronal est même dédié tout spécialement au traitement des visages. Donc, toutes les équipes qui font un petit peu des recherches sur tout ce qui est cognition chez l'homme, on en a forcément parlé. C'est vraiment un sujet. Enfin, moi, je sais que ça a été pendant toute une partie de mes études, on parlait de la reconnaissance des visages. Il y avait beaucoup de documentation, beaucoup de littérature là-dessus. Les chiens, on le sait, sont aussi attentifs au visage. Et d'ailleurs, ils sont capables de distinguer les émotions sur un visage humain. Ça, c'est vrai. Si vous avez des chiens ou si vous avez été en contact avec des chiens, vous avez souvent quand même l'impression que, en fonction de vos émotions, de ce que vous véhiculez, il y a une réaction qui peut être différente du chien. Ça, c'est des choses qui ont déjà été donc étudiées. Mais ils comptent également sur des signaux corporels supplémentaires pour communiquer entre eux. Et cette tendance, elle se retrouve au sein de leur activité neuronale. Contrairement aux humains, le cerveau des chiens ne fait pas de distinction s'il voit un congénère de dos ou de face. Ils sont particulièrement réactifs à la vue d'un autre chien, quelle que soit sa position. Nous, êtres humains, nous sommes un peu plus regardants. C'est-à-dire que chez les chiens, la préférence qu'on spécifie est primaire par rapport à la préférence faciale. Et chez les humains, c'est la préférence faciale qui est primaire par rapport à la préférence qu'on spécifie. Et ça, c'est une différence qui est essentielle. Et c'est ce que nous dit Nora Bunford, auteure principale de cette nouvelle étude. Le cerveau humain s'attarde plus sur la question « visage ou pas visage » quand celui des chiens s'interroge « chien ou humain ?» Finalement, cette nouvelle étude, elle démontre que la perception du visage, elle a une importance qui est relative au sein du règne animal. Oui, parce que forcément, ça va dépendre des espèces et dépendre, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qu'il y a derrière ça, des besoins des espèces par rapport à ça. Je pense que pour l'homme, il y a de toute façon des besoins très très importants par rapport au fait de reconnaître les visages. D'ailleurs, moi, ce qui m'avait frappé, je le dis vraiment de mémoire, c'était les études qui montraient qu'on adoptait cette reconnaissance très très tôt, elle se développait très tôt, puisque chez les bébés, il y a plein de choses qui ont été montrées et je crois qu'ils sont capables de reconnaître les visages des parents, mais notamment de la mère, extrêmement tôt. Il y a justement tout un circuit neuronal dédié et on comprend, là, il y a une notion de survie, en fait, hein, qui est derrière ça. pour le chien, c'est surtout de savoir déjà est-ce qu'il est en présence d'un congénère ou pas. Et donc pour aller plus loin, ce qui était dit et qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est ce qui leur permettait de continuer notamment à assurer une reproduction malgré les différentes races de chiens, en fait. Parce qu'on sait, hein, maintenant, on a l'homme en plus à sélectionner vraiment les chiens sur de nombreux critères, donc morphologiques, etc., et, ou de travail. Et donc, il y a énormément de races de chiens. Et en fait, c'est ce qui permettrait de garantir le fait qu'en effet, hein, les chiens peuvent se reproduire donc indépendamment de leur race.
On est bien uniquement sur l'aspect visuel de reconnaissance de reconnaissance.
Oui.
On s'arrête sur l'aspect visuel.
Là, c'est l'aspect visuel. On a en fait surtout regardé quelle zone du cerveau ça activait.
D'accord.
Mm-hmm. Okay. On se doute que bien sûr, oui, tout joue un rôle dans la reconnaissance, mais en tout cas, ça nous permet de mettre en évidence le fait que le chien ne va pas s'attarder. Autant que l'humain, en tout cas, d'après les résultats qu'on a jusqu'à présent, sur l'aspect visage. Mais plus sur l'aspect, est-ce que l'être est un chien ou pas ? Ou un autre, un humain ou autre.
Et donc, on ne fait pas cette expérience sur la base de photos, par exemple ?
C'était des vidéos.
Ça reste des vidéos, ok. Mmh. Donc, on a une notion de mouvement quand même.
Oui.
Et de...
Après, j'imagine que c'est quelque chose qui peut aussi se faire sur la base de photos.
Je sais pas. En fait, je suis même pas certain. En fait, je suis en train de réfléchir. Je suis peut-être pas certain, mais c'est intéressant, oui, ce genre d'expérience. Et tu retrouves ton élément. C'est pour
exactement,
ça.
Exactement. Mais il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes sur la cognition, et puis c'est souvent assez délicat parce que pour pas avoir de biais, pour pouvoir avoir des protocoles qui sont solides.
Mais c'est ça que je trouve très compliqué.
Alors là, j'ai pas le détail du protocole. C'est pour ça que tu commences à m'interroger. J'ai pas le détail, mais j'imagine que tout ça, ça a été bien paramétré pour que justement on soit sûr de des résultats qu'on peut déduire.
Oui, qu'on puisse. Oui, mais c'est intéressant, je trouve.
Mais alors, parce que moi, j'avais aussi noté, là, j'avais fait un petit peu des petites recherches sur des études précédentes justement, et il y a eu là. Notamment sur les reconnaissances des visages chez le chien, c'était sur la base de photos en fait. Il y a eu des études hein, sur savoir si le chien était capable de reconnaître le visage d'un autre chien à partir d'une photo. Et donc,
okay.
Oui, alors, et c'est là où justement, on montrait qu'ils ne faisaient pas de distinguo entre les races. Ça vient conforter hein, ce que je viens de raconter. Ils ne font pas de distinguo entre toutes les races de chiens. Ils ont tous été capables de différencier la photo du chien des autres animaux. Mais par contre, le chien, il est capable de s'identifier visuellement comme étant proche d'un caniche ou d'un berger allemand, en fait. Il y a eu le côté... Donc ça, c'est une étude qui date de 2013. Un chien est un chien, quelque part. Et c'est là que, justement, derrière ça, on disait il y a la capacité... Enfin, ça permet de garder cette capacité de reproduction au sens large, au sein de l'espèce. Et il y a aussi eu plusieurs études qui ont été menées sur la reconnaissance des visages chez les chiens en étudiant leurs mouvements oculaires pour savoir, donc, enfin, déterminer s'ils étaient capables de différencier les visages connus des visages inconnus et de reconnaître ceux de leur maître. Et donc, justement, ces études-là, elles ont montré que les têtes des autres chiens les rendent davantage curieux que celles des personnes inconnues. Et ils sont capables, hein, de toute façon, de reconnaître, bien sûr, leur maître quand ils voient très correctement leur visage. Donc, ils savent reconnaître les visages, ils savent distinguer les émotions sur le visage humain. Et bien évidemment, ils savent reconnaître les personnes, enfin les humains qui leur sont connus.
Ok,
en résumé.
Écoute, très bien, c'est noté, à suivre. Non, c'est intéressant, je trouve, toujours ce genre d'études, en fait, derrière, peut poser plein de questions, et puis finalement, on fait toujours des analogies, évidemment, avec l'homme, parce qu'on est tellement égocentrique, ça va être un peu ça. Je vois, oui, que tu as voulu nous ramener sur Terre, eh bien, je persiste et je signe, je te ramène sur la Lune.
D'accord, ben, je suis.
Très rapidement, pour finir cette émission, deux petites infos rapides. Premièrement, on n'en parle pas souvent. On parle pas souvent des Émirats arabes unis qui sont aussi dans la course de la Lune.
C'est vrai.
Il y a une mission d'un astronaute amérien. Oui, les Émirats. Donc c'est non, les Émiriens, pardon. Excusez-moi. Amérien.
Oui, américain. Non, ah oui.
Émirien, pardon. Une mission à bord de la station spatiale internationale en septembre dernier. Il y a eu l'envoi de la sonde Al-Amal vers la planète Mars cet été. Et donc, les Émirats arabes unis confirment leurs ambitions concernant l'exploration spatiale. Et ils ont donc annoncé il y a quelques jours leur projet d'envoyer un rover sur la Lune en 2024. 2024, c'est demain. Il faut bien se mettre en tête ça.
C'est clair.
C'est un rover conçu et construit à 100% par les équipes émiriennes du centre spatial Mohamed Bin Rachid de Dubaï. L'engin a été baptisé Rachid en hommage au père du cher Mohamed, réputé avoir modernisé Dubaï. Mais seul le rover sera estampillé « Made in Dubai », si on peut dire, parce que la plateforme d'atterrissage qui va transporter le rover sur la surface lunaire, elle ne sera pas réalisée aux Émirats. Les responsables de la mission vont se tourner vers des partenaires internationaux, voire des opérateurs privés pour transporter la mission sur la Lune. La décision sera prise dans les mois à venir. Donc ce rover, il va peser seulement 10 kilos. Il va embarquer des caméras et trois principaux instruments. Un imageur microscopique pour résoudre les particules dans ce fameux régolithe lunaire, qui sera peut-être le mot-clé de cette émission. Un imageur thermique pour étudier les caractéristiques thermiques de ce fameux régolithe lunaire, ce qui permettra de fournir une vérité terrain, entre guillemets, pour des observations similaires faites depuis les orbiteurs. Donc ce qui est intéressant, c'est que les Émirats sont aussi dans la course. On en entend de plus en plus parler, et c'est tant mieux, bien sûr. Dernière information, juste pour cette dernière minute, je voulais te révéler le secret des meilleurs sprinteurs.
Ah, et le dopage ? Non, je plaisante.
Pas du tout. D'après toi, quelle est la particularité des athlètes qui courent plus vite aux 100 mètres ?
Je sais pas, peut-être une particularité morphologique.
Tout à fait.
Oui. Laquelle ?
Eh bien, ce sont leurs énormes fesses. Super puissantes. C'est le constat d'une étude très sérieuse.
J'aurais pensé que c'était plutôt au niveau des jambes, mais oui, d'accord.
Mais tu ne cours pas uniquement avec tes jambes. Et tes jambes sont rattachées à quoi ? À ton fessier. C'est le constat d'une étude de l'université de Loughborough aux États-Unis qui a comparé la taille de 23 muscles inférieurs chez 42 athlètes de haut niveau. Ils ont découvert que parmi les sprinteurs d'élite, c'est-à-dire ceux qui ont une performance située entre 9,91 et 11 secondes au 100 mètres, ce qui est quand même pas mal, eh bien, ce qu'on appelle le grand glutéal est 45% plus gros chez les meilleurs athlètes. Ce seul muscle qui est situé à l'arrière des fessiers, le grand glutéal, que tu placeras dans une conversation, s'il te plaît,
évidemment,
eh bien, ça explique à lui seul 44% des différences. C'est ce qu'assurent les chercheurs. Il est tout à fait étonnant, nous dit Jonathan Follett, qui est l'un des auteurs de cette étude. Il est tout à fait étonnant de trouver un seul muscle ayant une si grande importance quand on sait que de multiples paramètres ont une influence sur la performance, comme la technique, la psychologie, la nutrition ou les autres acteurs anatomiques. Avec un fessier plus grand, le coureur sera capable de générer plus de puissance et donc d'avoir une plus grande vitesse de sprint. Cette étude pourrait permettre d'améliorer les performances des athlètes de haut niveau avec des exercices ciblés spécifiquement sur ce muscle et les autres muscles extenseurs du fessier. Et donc, le titre de cet article de Futura Science, « Les athlètes avec des grosses fesses courent plus vite aux 100 mètres ».
Évidemment, écoute, le titre était tellement tentant, forcément.
Évidemment, on ne pouvait que cliquer dessus.
Tout à fait.
C'était juste pour finir cette page de cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. L'actualité scientifique se poursuivra, bien sûr, samedi prochain. On continuera même pendant ces vacances de la Toussaint.
On sera là, tout à fait.
On sera là samedi prochain à 12h sur l'antenne de Graphite. N'oubliez pas la rediffusion mardi à 10h sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et le 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, bien sûr. Merci Carole.
Merci Jean-Noël.
Et à samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. Bonne journée et merci de votre fidélité.